des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé, bien sûr, des récalcitrants du domaine de la santé, des travailleurs de la santé qui, dans certains cas, n'avaient aucune dose de vaccin, dans certains cas, seulement une première. Puis on se disait, bon, est-ce que les mesures de Christian Dubé, le ministre de la Santé, la date butoir du 15 octobre, remise à une date butoir du 15 novembre, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a un impact sur le terrain? Est-ce que vraiment les gens, ça les encourage ou pas à aller se faire vacciner? Écoutez, il y a quelques instants, Christian Dubé, le ministre de la Santé, donc, a publié des chiffres très intéressants. Il dit, depuis une semaine, il y a environ 1000 personnes, des travailleurs de la santé, qui ont reçu une première dose et 2000 personnes qui en ont reçu une deuxième. Écoutez, c'est pas rien, là. Ça veut dire quand même qu'en une semaine seulement, il y a 3000 personnes qui travaillent dans le domaine de la santé qui ont fait un pas vers le vaccin. Donc, il y a quand même 3000 personnes qui ont répondu à l'appel, qui rejoignent le groupe au lieu de le retarder. Alors, on peut regarder cette situation-là, parfois en se désolant de ceux qui ne se font pas vacciner. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre le temps de féliciter et de remercier ces 3000 personnes qui ont fait un pas vers le vaccin. Quand j'ai vu ces chiffres-là aujourd'hui, j'ai posé un très positif et très admiratif et très reconnaissant. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous connaissez bien sûr Dr. Caroline Couache, pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU de Sainte-Justine. Elle a été très généreuse de son temps, de ses entrevues, de sa présence pendant toute la pandémie. Comme la pandémie n'est pas terminée, on va continuer de faire appel à ses lumières pour nous éclairer. Dr. Caroline Couache qui est au bout de la ligne. Bonjour Dr. Couache.
Bonjour, Madame Durocher.
Je pense que c'est important à chaque fois qu'on vous parle, vous et les autres spécialistes de la santé qui avaient été si généreux pendant la pandémie, de souligner votre présence, votre disponibilité. Je pense qu'on le dira jamais assez. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans ce cas-ci, Dr. Couache, on veut parler de cette étude que vous avez faite avec vos collègues sur l'utilisation optimale des tests rapides pour contenir les éclosions. Pourquoi cette étude et quelles conclusions êtes-vous arrivées?
En fait, cette étude avait été soumise au ministère de la Santé et des Services sociaux l'année passée, donc à l'automne dernier, justement parce qu'on savait que ces tests rapides-là allaient arriver sur le marché, puis on se disait qu'il fallait trouver un moyen de garder les enfants à l'école le plus possible, mais aussi de valider l'utilisation de ces tests-là, parce qu'il y avait au départ quelques... Je voudrais controverse là, autour de ces tests-là parce que, bon, on le sait, ils ne sont pas parfaits, mais c'est quand même un outil supplémentaire. Donc, ce que notre étude a démontré après 5 mois de suivi et plus de 2000 élèves et participants et 300 professeurs et personnels enseignants, c'est que quand un individu présente des symptômes et qu'on fait le test, il a une sensibilité de 80 % par rapport au PCR, c'est-à-dire le test qu'on fait en laboratoire habituellement. Ce que ça veut dire, c'est que 8 fois sur 10, il va trouver le résultat de la COVID, ce qui veut dire quand même qu'on en manque 2. Mais de façon générale, ceux qui sont manqués sont habituellement ceux qui ont une charge virale plus faible et qui donc, en théorie, devraient moins transmettre également. Et donc, d'avoir le résultat en 15 minutes, là, plutôt que parfois 2-3 jours l'année dernière et même parfois cette année, bien, ça permettait à la santé publique de faire leur travail beaucoup plus rapidement et d'éviter qu'il y ait de la transmission à l'école parce que cette personne-là aurait pu continuer à aller à l'école. l'école sans être retiré.
D'accord. Alors, on comprend bien que cette inquiétude-là qu'on pouvait avoir en se disant, bon, ben c'est un test en 15 minutes versus un test beaucoup plus long, qui est le test PCR, ben l'impact, en tout cas, sur l'efficacité est moindre. C'est-à-dire que, bon, 80 % c'est quand même un très, très bon résultat. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que ces tests-là, on en a plein. Vous, vous suggérez de les utiliser à grande échelle, mais par exemple à la maison. Est-ce qu'on devrait pas le répandre, par exemple? Est-ce que nous, au travail ici, on devrait pas l'utiliser? Est-ce qu'on devrait pas l'utiliser dans toutes les écoles? Est-ce qu'on devrait pas plaider au contraire pour une utilisation dans toutes les sphères de la société?
Bien, je vous dirais que présentement, ces tests-là ont été déployés dans toutes les écoles du Québec et donc ils sont utilisés pour les enfants avec symptômes. Moins dans les écoles où il y a une grande couverture vaccinale. Là, ils les ont vraiment réservés pour les écoles primaires et les écoles où la couverture vaccinale est moins bonne. Je pense par ailleurs que il faut quand même réaliser là, que les gens ont envie de les utiliser aussi pour voir s'ils sont porteurs et qu'ils n'ont pas de symptômes. Dans ce contexte-là, il faut réaliser que la sensibilité était seulement de 30 %, donc on en manquait 7. Encore une fois, ceux qu'on manque sont probablement ceux qui ont une charge virale plus faible, ce qui ne veut pas dire que le lendemain, la charge virale ne sera pas augmentée. Je pense qu'éventuellement, on va avoir accès à ces tests-là de façon beaucoup plus démocratique. Présentement, il y a des compagnies qui les vendent déjà, là, mais à des prix d'or. Mais là où je pense qu'il faut faire encore un petit arrimage, c'est de savoir, bon, si on en donne aux familles, si jamais le test est positif, comment est-ce qu'on s'assure que le résultat est transmis quand même à la santé publique pour qu'on puisse avoir un traçage des contacts, pour pas qu'on laisse ça partir dans la jungle. Si jamais quelqu'un est positif et qu'il s'isole à la maison, ça va, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un traçage de contact à faire autour pour ne pas qu'il y ait de nouvelles éclosions. Et donc, je pense que c'est plus cet aspect-là là, qui reste à attacher, mais ces tests-là sont disponibles dans certaines entreprises. Le ministère avait fait aussi des projets l'année dernière où, dans les milieux où il y avait plus de risques de transmission parce qu'on était tous collés les uns sur les autres, qu'on pouvait pas toujours travailler avec un masque, ben ça avait été déployé et ça avait eu son efficacité aussi. Donc, on est en train de les étendre là, un peu plus partout.
D'accord. Est-ce que, par contre, on doit pas faire un certain constat d'échec, Dr Kouach? Parce que on le sait, ça fait quand même longtemps que le gouvernement fédéral avait livré des dizaines et des dizaines de milliers de tests rapides à Québec. Puis on le sait, pendant des mois, les journalistes ont dénoncé le fait que ces boîtes de tests-là prenaient la poussière, qu'on ne les utilisait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand même de se dire on les avait, on se doutait quand même qu'ils avaient une très bonne efficacité et on s'en est pas servi?
Oui, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, je pense qu'on n'est pas du tout au même endroit cet automne que à l'hiver dernier. À l'hiver dernier, il y avait à peu près pas de vaccination. On était très hésitant à même échapper un cas ou deux parce qu'à ce moment-là, ça pouvait partir des éclosions et atteindre des gens qui étaient vulnérables et qui auraient été hospitalisés. Alors que cet automne-ci, on a quand même au-delà de 85% de la population adulte qui est vaccinée, qui est protégée contre les complications. Et donc, on a un peu plus de marge de manœuvre. Je vous dirais que ça valait la peine quand même de les évaluer. Là. Ben oui, on aurait pu commencer à les utiliser plus tôt. Ça, on est d'accord. Mais je pense qu'il fallait quand même faire ce travail-là d'évaluation de la technologie.
Mais je comprends pas ce que vous dites, Dr Kouach, parce que vous dites, ben justement, il me semble qu'au contraire, vu que l'hiver dernier, on n'avait pas cette protection-là de la vaccination, on aurait été même d'utiliser ces tests-là parce que c'était mieux que rien, même si c'était pas, s'ils étaient pas sûrs à 100%, même si c'était juste 10, 20, 30, 40, 50%, c'est toujours mieux que zéro. Donc, je comprends pas pourquoi c'est plus utile de les utiliser maintenant que à l'époque où on avait justement même pas les vaccins. Éclairez ma lanterne là-dessus parce que c'est pas clair.
Ben, écoutez, si l'année passée, disons qu'on avait une efficacité de détection à 50%, il faut quand même s'assurer que l'autre moitié se fasse quand même tester parce que la crainte, c'est que on fasse que des tests rapides, ils sont disponibles facilement, les gens n'iront plus faire leur PCR pour confirmer la présence de COVID ou pas. Et donc, les cinq ou les mettons deux là qu'on aurait manqué avec des symptômes qui auraient été vraiment COVID, qui ne se seraient pas fait tester, qui se seraient pas fait tester le lendemain, qui auraient continué à vaquer à leurs occupations, ceux-là auraient pu déclencher des éclosions avec des impacts beaucoup plus grands que cette année comme je vous dis, cette année, à la limite, même si on en manque, c'est un peu moins grave dans le contexte où on a cette protection vaccinale-là. Et je pense que ça faisait partie des inquiétudes l'année dernière à se dire, mais si on met ces tests-là, si on les rend disponibles et que les gens ne prennent que ces tests-là, laissent tomber le reste des mesures en se disant, je suis pas positif, donc je peux faire la fête comme si de rien n'était, est-ce qu'on va, au contraire, partir de grandes éclosions qui vont submerger les hôpitaux? Je vous dirais que c'est peut-être là où il y a eu une hésitation l'année dernière.
Oui. Quand on se compare avec d'autres endroits à travers le monde, on se compare comment? C'est-à-dire que comment, par exemple, en Europe, les tests rapides, comment ça a été utilisé? Et est-ce qu'on n'a pas des leçons à apprendre de la façon dont ça a été utilisé dans d'autres pays?
Ils les ont utilisés beaucoup plus rapidement en Europe. Ils avaient plus de compagnies qui pouvaient les fournir, ça c'est clair. L'Angleterre même donnait au printemps passé des tests rapides aux parents pour dire, écoutez, vous allez les tester s'il y a des symptômes avant de les envoyer à l'école. Le système ne fonctionnait pas de la même façon. Est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que ça fait partie des succès ailleurs, je pense que ça faisait partie de la boîte à outils, là, comme n'importe quoi d'autre. Et donc, on a vu qu'ailleurs, ça avait été déployé, mais je voudrais que... Il y a une réticence ici parce que le test n'était pas parfait et donc la santé publique se sentait un peu mal à l'aise, je pense, de les utiliser à plus grande échelle.
OK. Je vais faire un parallèle sûrement boiteux parce que vous êtes une spécialiste et moi pas. Donc, pardonnez, peut-être ma question est peut-être naïve, mais... est-ce que je reviens en arrière au début de la pandémie, docteur Arruda nous dit ne portez pas le masque, on ne recommande pas le port du masque parce que ça donne aux gens un faux sentiment de sécurité. Aujourd'hui, ce que je crois entendre dans vos paroles, c'est que la réticence qu'on avait faite au test rapide, c'est justement que ça aurait donné aux gens un faux sentiment de sécurité. Est-ce que je comprends bien ce que je lis entre les lignes, docteur Quash, ou je suis complètement dans le champ? Vous pouvez me le dire, hein, ça me dérange pas, j'ai pas d'égo pour ça.
Non, je pense qu'il y avait cette perception-là que peut-être qu'il y aurait un faux sentiment de sécurité, mais je vous dis vraiment, là, les gens de laboratoire et de santé publique avaient peur que le test nous donne trop de faux négatifs et donc qu'on en manque tellement que la pandémie ne serait plus contrôlable.
D'accord. Que le filet soit pas assez solide finalement,
oui,
et voilà. Que ça crée un
que
trop grand danger.
Soient,
d'accord.
Les mailles soient trop larges pour qu'on soit capable de contenir les choses. On se rappellera que l'année passée, quand on est rentré après Noël, parce que c'est à peu près là où les tests sont devenus disponibles, les gens étaient craintifs de voir une vague déferler et complètement submerger nos hôpitaux.
Donc, si on avait le choix à ce moment-là et on l'avait entre un test rapide qui pouvait nous donner un haut pourcentage de faux négatifs versus le PCR qui était beaucoup plus sécuritaire, on a bien fait, selon vous, de se fier au test PCR. Si je résume, c'est ça.
Écoutez, le test PCR, c'est le plus sensible, le plus spécifique. Je vous dirais que le seul grain de sable dans l'engrenage, c'est qu'il fallait en avoir suffisamment de PCR et d'accès. Et donc, est-ce qu'on aurait pu mettre l'autre en plus? Peut-être. Mais là, c'est toujours facile de regarder en arrière et de dire on aurait pu.
Ouais.
Je vous dirais qu'en regardant prospectivement, et les gens ont eu des inquiétudes. Puis honnêtement, malgré tout, la pandémie, les vagues au Québec ont été relativement bien contrôlées. Peu importe si la décision prise au moment X a été la meilleure ou pas, dans l'ensemble, on a quand même réussi à juguler les vagues. On regarde ce qui se passe présentement dans l'Ouest, on n'est pas du tout dans cet état de fait-là.
C'est sûr, si on se compare à l'Alberta, à la Saskatchewan, on est vraiment chanceux d'une certaine façon d'être ici au Québec. Je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Hier, le premier ministre François Legault qui a dit qu'elle allait déclarer la fin de l'état l'urgence lorsque la vaccination des enfants va être amorcée, donc c'est la vaccination des 5-11 ans. Est-ce que vous voyez vraiment, vous aussi, la lumière au bout du tunnel une fois que tous les 5-11 ans, ou enfin une majorité de 5-11 ans sera vaccinée?
Bien, je pense que ce qu'on voit présentement, c'est que la plupart le gros de la transmission se fait au niveau du 5-11 ans parce qu'évidemment, c'est eux qui ne sont pas vaccinés. Heureusement, ils n'ont pas énormément de complications, pas beaucoup d'hospitalisations, donc ça nous rassure. À chaque fois que j'ai dit que je voyais la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Donc,
il y a un train qui s'en venait.
Je vais pas oser. Je sais pas ce qui nous attend encore devant nous. Je pense que plus on a une couverture vaccinale étendue, mieux on s'en tirera. J'espère juste pas voir un nouveau variant se pointer le bout du nez. Mais bon, je peux pas vous dire autre chose que pour l'instant, les choses sont stables, elles semblent bien aller, qu'effectivement, quand on pourra vacciner le plus grand nombre de gens possible, on sera mieux. Mais après ça, j'ai appris ma leçon, là. Je ne me prononcerai pas.
D'accord, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'un train de variants s'en vient vers nous. Je regardais le compte Twitter du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui disait que au cours de la dernière semaine, il y a quand même, je pense, un total de 3000 personnes, des travailleurs de la santé, qui soit sont allés chercher une première ou une deuxième dose de vaccin. Donc, les choses bougent quand même. Est-ce que de ce côté-là, on doit se réjouir? Par exemple, à Sainte-Justine, est-ce que vous avez connaissance de collègues ou de gens qui travaillent là, qui étaient réticents au vaccin et qui vont en effet ou sont en effet allés se faire vacciner en prévision, évidemment, de la date de tombée du 15 novembre?
Écoutez, on était quand même relativement bien vaccinés à Sainte-Justine. C'est sûr qu'il y avait des collègues qui étaient réticents. Et parfois, la réticence ne vient pas nécessairement du fait qu'ils ont peur du vaccin. Il y en a qui sont complètement mais phobiques des aiguilles, qui sont juste anxieux de façon générale. Donc, on a rencontré certaines personnes pour essayer de leur expliquer les choses. On les a accompagnés dans le geste de vaccination. C'est sûr que de ne pas avoir de date butoir faisait en sorte qu'ils pouvaient laisser passer le temps puis se dire bon, tant pis, j'aime mieux ne pas choisir que de confronter l'aiguille. Mais en bout de ligne, il y a des gens qui vont continuer à refuser la vaccination, mais ceux qui avaient une ouverture, ben on essaie de continuer à dialoguer. Je pense que l'important, c'est justement ce dialogue-là pour comprendre les réticences et les hésitations.
D'accord. Comme dans la publicité gouvernementale qui circule en ce moment, où on dit quelque chose comme il faut s'écouter, il faut se parler, quelque chose comme ça. Là. En gros, ça dit qu'il faut écouter les arguments des autres et c'est certainement pas en les braquant qu'on va réussir à les convaincre. Docteur Kouach, merci beaucoup encore une fois de votre disponibilité. Puis je pense que vous avez réussi à éclairer la lanterne de beaucoup de gens en nous parlant justement de ces tests rapides et des raisons des réticences au cours des mois précédents. Merci.
Merci, bonne journée.
Merci, vous aussi, Dr. Caroline Kouach, qui est donc pédiatre spécialiste à Sainte-Justine.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Vous avez peut-être vu ces jours-ci une publicité contre le vapotage. C'est des jeunes qui racontent leur expérience de vapotage. Puis il y a des caméras sur des parents qui sont complètement effarés d'apprendre l'ampleur du phénomène. Et c'est justement de ce phénomène-là que Marie-Claude Barrette veut nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude. Ça fait peur, hein, quand on entend parler jeunes et vapotage. Là, il me semble que ça va pas ensemble.
Exactement. Puis là, tu vois, c'est le Conseil québécois sur le tabac et la santé qui sonne l'alarme parce que l'augmentation chez les jeunes qui ont jamais fumé, ils commencent à vapoter parce que le vapotage avait un sens, surtout pour les fumeurs qui voulaient arrêter de fumer. C'était comme un moindre mal et on trouvait que l'efficacité était plus grande, par exemple, que les patchs en essayant les vapoteuses. Mais tu vois, l'autre fois, j'écoutais un reportage aux nouvelles qui avait aucun rapport avec les vapoteuses et ça concernait des jeunes. Et toutes les jeunes avaient un petit bidule de différentes couleurs dans les mains et ça vapotait, mais sérieusement, pendant qu'un autre jeune était en entrevue. Puis j'ai questionné ma fille, tu sais, qui est au cégep, puis j'ai dit, mais c'est quoi, là? Elle m'a dit, c'était quoi? Puis elle dit, écoute, tout le monde a ça, maman, là. Tu sais, il y a différentes couleurs, il y a des arômes, il y a des saveurs. Puis elle dit, c'est vraiment répandu. Tu sais, c'est comme cool aussi d'avoir ta vapoteuse. Puis elle dit, tu sais, quand t'as ça, tu vapotes tout le temps. Puis
c'est là, comme un accessoire de mode quasiment, là.
Oui, exactement, exactement. Maintenant, il y a plusieurs compagnies qui offrent des modèles différents. Et dans le cas du vapotage, il y a les arômes. Tu sais, je regardais, par exemple, en Europe, il y a le Danemark qui a pris de l'avance parce que eux autres, depuis le 1er avril dernier, il y a plus de les arômes sont strictement interdites pour les vapoteuses. Parce que ce qu'on se rend compte, en tout cas, mais tu vois comment les pays de l'Union européenne, eux, il y a vraiment ils se contredisent. Ils sont pas d'accord par rapport à retirer ce produit-là parce qu'ils disent qu'il y a quand même des bienfaits. Ils sont pas tous d'accord sur les conséquences que ça fait. Parce que quand on lit ici, par exemple, ce qu'on nous donne comme effet secondaire, parce que vraiment, il y a une campagne anti-vapotage, essoufflement, troubles de mémoire, troubles de concentration, difficultés à gérer son humeur, troubles cognitifs et comportementaux, anxiété, dépression. Écoute, tu sais, je veux dire, je comprends pourquoi on fait une campagne pour mettre en garde contre le vapotage parce que je me demande, tu sais, même comme parent, quand ton enfant vape, hein, c'est le terme utilisé, quand ton enfant a ça, est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce que toi, tu t'inquiéterais si ton fils vapotait?
Ben moi, je capte. Écoute, non seulement je capoterais, mais je capote parce que depuis la rentrée, tu vois, mon fils est en secondaire 2. Et depuis la rentrée de cette année, là, depuis le mois d'août, régulièrement, quand il rentre à la maison, il me dit « Maman, j'en reviens pas, tel jeune dans ma classe, tel jeune dans la classe d'à côté, il vape. » Puis là, il a fallu que je lui explique parce que lui, il pensait que il suffisait qu'un jeune se présente dans un dépanneur avec une fausse carte, puis qu'il allait pouvoir obtenir une vapoteuse. J'ai dit, ben non, ça suffit pas, là. Si t'as l'air d'avoir 13 ans, puis tu te promènes avec une fausse carte, au dépanneur, ils vont pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a plus que 18 ans qui achète des vapoteuses et qui les donne à des jeunes. Écoute, mon fils, il a 13 ans et demi, là. Ça n'a aucun sens que les jeunes de son âge. Parce que quand je regarde les chiffres, là, mettons, le vapotage au moins 3 fois plus populaire chez les jeunes de 15 à 17 ans que chez les adultes. Un jeune sur 3 à la fin du secondaire vapote, soit 5 fois plus que le nombre de jeunes qui fumaient il y a 10 ans. Je veux bien. Mais là, on parle même pas de gens qui ont 15 ans. Mon fils, il a 13 ans et demi. À chaque fois qu'il revient de la maison puis qu'il me parle des amis qui vapent, je capote, Marie-Claude.
Ben oui, ben tu vois, moi, ça m'avait, je te dirais, échappé jusqu'à ce que je vois ce reportage-là à la télé. Puis je me disais, mais j'écoutais même pas ce dont ça concernait parce oui. que j'étais, mais voyons, ils font toute la boucane. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça se fait que tout le monde a ça? Et tu sais, il y avait une fierté clairement de montrer qu'il vapotait. Mais il faut prendre ça au sérieux parce qu'il y a de la nicotine. Hein, puis on sait que la nicotine, ça crée une dépendance. C'est une grave dépendance parce qu'on sait, les fumeurs, combien des fois ça peut être difficile d'arrêter de fumer. Et il faut quand même, je reviens à la base, moi je me souviens, Dr Junot, qui est à l'Institut de cardiologie de Montréal, oui. qui est cardiologue, au début, quand les vapoteuses sont sorties, tu sais, lui il disait un instant, parce que les gens, il y en a qui déjà disaient que c'était pas bon, mais il disait, moi, pour mes gens qui sont cardiaques, qui doivent arrêter de fumer pour assurer leur survie, ben la vapoteuse est une alternative intéressante dans ce cas-là parce que là, on est dans un cas extrême puis c'est une des avenues pour peut-être qu'ils arrêtent. Puis ils avaient remarqué que les gens continuaient longtemps la vapoteuse, mais arrêtaient de fumer et que pour lui, c'est un moindre mal, c'est moins pire que la cigarette. Alors, il y a des cas comme ça, et je regardais en Europe, c'est aussi la même discussion. C'est que pour un fumeur qui veut arrêter, c'est une chose. Mais pour quelqu'un qui a jamais eu recours à la nicotine, qui a jamais fumé de sa vie, c'est comme si là, tout à coup, l'industrie s'est emparée de ce marché-là avec toutes les campagnes anti-tabac. Ça, tu sais, il y avait moins de tabagisme. Et là, ils ont trouvé avec la papoteuse une façon d'aller chercher la clientèle qu'ils recherchaient, mais ils ne savaient pas comment y arriver. Alors là, c'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs, et on a l'impression que c'est beaucoup moins nocif que la cigarette, et pourtant, ça crée une dépendance. Et toi, moi, je ne sais pas, mais si tu as des amis autour de toi qui ont arrêté de fumer avec la vapoteuse, moi, j'en ai, et je réalisais en préparant cette discussion-là avec toi que ça fait plusieurs années, ils vapotent toujours, ils n'ont jamais arrêté de vapoter.
C'est ça. C'est censé être un truc de transition pour te sevrer, en fait, rien de moins que te sevrer, sauf que si, en effet, 5 ans plus tard... T'es encore en train de téter. Moi, je trouve ça drôle. Quelqu'un qui vapote, j'ai l'impression qu'il est en train de téter le biberon ou le sein de sa mère. Là, je trouve qu'il y a comme une espèce de d'image. Mais en tout cas, moi, je sais pas, j'arrive pas à m'enlever cette image-là.
Mais c'est probablement sécurisant. Il y a quelque chose là-dedans. Puis la nicotine, oui, a créé une dépendance, mais en même temps, puis il y a des choses. Il y a aussi des substances toxiques. C'est ça qui inquiète aussi. C'est que c'est pas banal.
C'est pas anodin, tout à fait.
Absolument. Puis, tu sais, les ventes ont augmenté de 50 fois. Les détaillants ont augmenté leurs ventes de 50 fois. Imagine comment... Puis, tu sais, tantôt, je disais d'entrée de jeu, le nombre de produits, le nombre d'arômes et tout ça pour plaire aux plus jeunes, à la plus grande quantité. Alors, puis imagine, c'est créé une dépendance à partir de 13, 14, 15 ans. Alors, faut s'ouvrir les yeux. Je pense que c'est ce que le Conseil québécois sur le tabac et la santé veut faire. C'est ne prenons pas ça à la légère. C'est pas cute, là, vapoter.
Non, et la pub est très bonne. Et la pub est très bien faite. Et la pub est très bien faite parce que, justement, les parents sont comme effarés puis sont là, « Oh my God! » God! Et non, mais ils tombent des nues parce que, tu sais, moi, mon fils, je suis chanceuse, là, puis je touche du bois, là. Je suis chanceuse que lui soit pas tombé là-dedans, entre guillemets, mais, et que lui, elle soit assez lucide, puis me dise, mais voyons, maman, ça a pas d'allure des gens de mon âge qui vape, là, c'est l'expression qu'il utilise. Mais imagine aussi, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour contrer ce phénomène-là? Parce que c'est sûr que je sais qu'il y a des écoles où c'est carrément interdit. Ils disent, bon, si vous voulez vaper, vous le faites. Si vous voulez vapoter, vous le faites en dehors, mais sur le terrain de l'école, c'est interdit. Mais en même temps, tu le sais, Marie-Claude, chaque fois qu'on dit à des jeunes, surtout de cet âge-là, le début de l'adolescence, telle affaire est interdite, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'ils vont aller voir.
Ben oui, absolument. Puis, tu le fais pas à l'école, tu le fais partout ailleurs. Là. Moi, je te rappellerai que quand j'étais au secondaire, il y avait un fumoir dans l'école. Là.
T'es sérieuse?
Ben absolument. On passait dans le fumoir, puis en plus, il y avait des gens qui avaient leur casier dans le fumoir. Je comptais ça à mes enfants à un moment donné, puis ben voyons donc, ben oui, on les gens allaient fumer là, puis c'était comme ça. Puis, tu sais, imagine, t'as ta case, si t'es pas fumeur, t'es avec toute la gang qui allait fumer, mais c'était cool là, d'être dans le fumoir, puis on allait jouer au ping-pong dans le fumoir, puis c'était comme ça. Donc, les choses ont vraiment évolué. Mais
écoute, on fumait dans les avions. On se fumait dans les avions, te rappelles-tu, il y avait des sections fumeurs et non-fumeurs dans les avions. C'était complètement ridicule. On était dans un endroit fermé à 30 000 pieds dans les airs.
Ben écoute, Dr Gino, lui, avait été étudié en Californie, puis il était en avance sur la nicotine, la Californie, sur les dangers.
Ouais.
Puis quand il était revenu à l'Institut, il a fait enlever les machines distributrices de cigarettes dans l'Institut de cardiologie de Montréal.
Alors, ah, c'est excellent!
Ben, faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 20 ans que les pharmacies n'ont plus le droit de vendre de cigarettes.
Ben oui.
On pouvait s'acheter des cigarettes direct. On pouvait acheter les patchs pour arrêter de fumer et aussi les cigarettes au même endroit. Là.
Incroyable.
Alors, on a quand même évolué. Alors, je pense que j'ai comme l'impression que la réglementation par rapport aux arômes, en tout cas, pourrait faire une différence parce que c'est sûr que ça rend ça ludique aussi d'avoir peu à la menthe, aux framboises, peu importe. Et tu as tout ça. Tu sais, on dirait que ça enlève le côté dangerosité, le côté effet secondaire. Et même si au Canada, par exemple, depuis juillet 2021, le gouvernement fédéral a interdit un niveau de concentration, il a fait réduire le niveau de concentration par millilitre de nicotine, il reste que ça crée quand même une dépendance, puis on le voit. Puis écoute, pour les compagnies qui offrent ça, imagine, c'est une manne. Mmh. Et on voit de plus en plus de magasins aussi où on vend les liquides qu'on met dans les vapoteuses.
Oui, oui, oui.
Et les vapoteuses, tu sais, je veux dire, on en voit pousser un peu partout. Puis des fois, c'est dans des petits villages, il y a ce genre de commerce-là. Tu sais, c'est quand même un signe pour dire que ça prend de l'ampleur. Alors, moi, je suis contente qu'on s'outille là-dessus, qu'on apprend là-dessus comme parents, puis même comme adolescents. Tu sais, ça ne veut pas dire que tous les adolescents comprennent qu'il y a autant d'effets secondaires, comme ça a pris du temps avant qu'on comprenne tout le côté néfaste du tabagisme. Alors, je suis contente. Moi aussi, la campagne, je la trouve bonne. Et je pense que c'est la première fois qu'on fait comme « Attends une minute, là, il y a peut-être un problème avec ça. » C'est peut-être pas aussi cute qu'on pense.
Absolument. Même si l'emballage, même si le contenant est absolument charmant, mignon, oui, et drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. En tout cas, certainement pas pour des jeunes et surtout pas pour mon fils. Mon Dieu.
Mais non.
Drôle, je te dis, être maman d'ado aujourd'hui.
Mais parce que tout ce qui crée une dépendance devient inquiétant.
Oui, puis tu sais, t'as ça, puis après, t'as les boissons énergisantes, puis après, t'as toutes sortes de trucs, puis en plus, t'as le jeu du calmar. Non, je te repartirai pas là-dessus, Marie-Claude.
Mais pas mal d'affaires de ce temps-là, pauvre jeune. Oui, mais faut penser à nos jeunes, c'est ça. Puis comme parents, ben c'est des défis supplémentaires.
Oui, puis l'important, c'est de s'asseoir puis de se parler. Écoute, Marie-Claude, une histoire absolument sordide que je n'avais pas vue passer. Je suis très contente que tu attires mon attention, notre attention là-dessus. Une femme violée dans un train près de Philadelphie sans qu'aucun passager ne réagisse. C'est quoi cette affaire-là?
Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça s'est passé la semaine dernière à Philadelphie. Il est 22 heures le soir. On n'est pas en plein milieu de la nuit. Il est 22 heures. Il y a du monde dans le train. Et tout à coup, il y a un assaillant qui attaque une femme. T'sais, il l'attaque violemment. Il l'agresse. Il la viole. T'sais. Et là, il pose le geste clairement. Et il y a des gens. Et sais-tu ce que font les gens? Ils filment. Ils prennent des photos. Et personne ne fait le 911. Là. Personne ne fait le 911. Et c'est quelqu'un qui travaillait pour la compagnie de transport qui a vu comme le train passait. Il est rentré dans le train et c'est lui qui a appelé le 911. Il a vu que se passait de quoi d'anormal. Il a vu comme un geste d'agression. C'est lui qui a appelé le 911. La police est arrivée immédiatement. Et la femme, elle a survécu parce que c'est elle qui a aidé les policiers à l'enquête. Et tu sais, je pense que la femme ne va pas bien parce que le chef de police, on espère qu'elle s'en sortira. Donc, on peut imaginer qu'elle n'est pas dans un état, vraiment, elle n'est pas dans un bon état. Mais le chef de police qui a pris la parole, il dit là, tous ceux et celles qui étaient dans le train, qui ont filmé, regardez-vous dans un miroir. Puis il dit, il y a 2600 caméras ici, on va vous repérer,
Excellent.
On veut savoir qu'est-ce que vous avez pensé. Puis, tu sais, j'espère qu'on ne verra pas ces images-là sur les réseaux sociaux parce que là, c'est la crainte du service de police de Philadelphie présentement parce qu'il y a des gens qui ont filmé la scène. Alors, il y a quelque chose là-dedans on dirait que c'est pas possible d'entendre une histoire comme ça. Puis, tu sais, le chef de police était très autoritaire quand il a parlé parce que il dit, comme citoyen, on doit intervenir. Parce qu'il dit, à la gang qu'il y avait dans le train, il aurait pu arrêter l'agresseur. Il aurait pu ne pas se rendre aussi loin. Il a laissé la femme, elle était pratiquement morte, là. Si le travailleur du train n'était pas rentré, là, qu'est-ce qui se serait passé? T'sais, jusqu'à où il serait allé? C'est lui qui l'a arrêté. C'est la police, parce que l'assaillant, il était encore sur en train d'agresser cette femme-là. Mais c'est une histoire, c'est l'horreur. Et là, c'est là que je trouve qu'on devient ridicule. On a un téléphone, on fait pas le 911, mais on pense filmer la scène comme si c'était de quoi de hot, là, tu sais. Et ça, il y avait une étude, je me souviens, quand j'étais à l'université, il y avait une étude où il y avait simulé une crise cardiaque dans une salle d'attente chez un médecin. Quand il y avait une personne, tout de suite, la personne intervenait. À deux personnes, tout de suite.
Oui.
À trois, le temps d'attente était plus long. Et à sept, la personne qui simulait l'infarctus avait le temps de mourir.
Oui, et ça, c'est intéressant parce que, oui, je suis contente que tu parles de ça parce qu'aussi, au cégep, on apprenait ça, c'est ça, dans les cours de psycho ou quelque chose comme ça, ou dans les cours de philosophie. Puis il y a un nom à ça, c'est le phénomène de XYZ, je me souviens plus du nom. Et en fait, c'est que plus le quotient intellectuel d'un groupe diminue au fur et à mesure que le groupe est grand. C'est-à-dire que plus t'es nombreux, moins t'es intelligent, puis moins t'as le sentiment de la responsabilité, parce que tu te dis tout le temps, ben c'est pas grave, j'ai pas besoin d'intervenir, quelqu'un d'autre va le faire. Alors que si t'es tout seul, ben tu te sens interpellé, tu te dis, ben si moi je le fais pas, personne va le faire. Mais que les gens poussent c'est une chose de pas intervenir. Déjà, c'est absolument effroyable. Mais de filmer, et tu sais à quoi ça me fait penser, même si c'est pas du tout dans la même catégorie, mais tu sais, les jeunes qui ont fait manger, c'est à Shawinigan, je pense, on en avait parlé toutes les deux, les jeunes qui ont fait manger des excréments de chien à ce jeune autiste jusqu'à temps qu'il vomisse, mais qui l'ont filmé. Oui. Dans quel genre de société on est rendu, Marie-Claude, pour que le cellulaire qui est omniprésent sert pas juste à téléphoner pour appeler grand-maman, ça sert à filmer des actes ignobles de violence. Je veux dire, écoute, c'est Orange Mécanique, là, je sais pas, ça fait peur.
Ouais, puis on a, tu sais, ce film-là nous a marqué justement par son niveau de violence. C'est Orange Mécanique, on en parle et ça a marqué presque une génération, ce film-là. Et c'était de la fiction, hein. Et là, on est dans la réalité. Et c'est comme en même temps, c'est comme une fierté de dire, moi, j'ai filmé ça, regarde ce que j'ai. Et il y en a que c'est pour aussi avoir des likes. Tu sais, c'est des vraies scènes. Est-ce que ça se peut que des fois, on dirait qu'on mélange la fiction et la réalité? On oublie que, tu sais, comme ces gens-là oubliaient que cette femme-là, elle vivait une agression sexuelle, puis elle aurait pu en mourir devant leurs yeux.
T'as tout à fait raison. On a l'impression que, justement, ce filtre-là de la caméra fait en sorte qu'on a été désensibilisé. Écoute, je suis très troublée par cette histoire-là. Je l'avais vraiment pas vue passer. Donc, heureusement que t'es là pour nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup, Marie-Claude. Toujours intéressant, nos rencontres. Et, à demain.
À demain. Merci, Sophie.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Quand le premier ministre François Legault, hier, a fait ses différentes annonces, c'est un petit peu passé inaperçu, mais pas pour ceux qui suivent le dossier depuis longtemps. Le fameux cours d'éthique et de culture religieuse, le fameux cours de ECR, est aboli. Il sera remplacé par un cours d'initiation à la citoyenneté québécoise, un cours sur la culture et la citoyenneté québécoise pour tous les gens qui, depuis des années, dénoncent les dérapages et les dérives de ce cours d'éthique et de culture religieuse. C'est évidemment une grande victoire. On va en parler avec Nadia El-Mabrouk. Vous l'avez entendu souvent interviewée sur les ondes de Cube Radio. Elle est, entre autres, auteure du livre « Notre laïcité » aux éditions Dialogue Nord-Sud, et elle est aussi membre du conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Bonjour, Mme El-Mabrouk.
Oui, bonjour, Mme Durocher.
Pour ceux qui n'ont aucune idée, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui va à l'école, donc quelqu'un qui peut-être a vécu sur une autre planète aussi au cours des dernières années, expliquez-nous donc, c'est quoi le cours d'éthique et de culture religieuse, Mme El-Mabrouk?
Oui, alors c'est un cours qui a été créé en 2008 et puis donc qui est enseigné de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire. Et puis donc le titre c'est éthique et culture religieuse. Donc vous voyez, il y a un lien entre l'éthique et la culture religieuse. Et donc l'objectif annoncé du cours, c'est la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Donc il n'y a que des bonnes intentions. Sauf que c'est à travers les appartenances religieuses beaucoup là que tout ça doit être passé. Donc, comme vous dites, on dénonce ce cours depuis longtemps.
Qu'est-ce que vous reprochez?
À cause de cette reconnaissance de l'autre à travers sa religion. Donc, c'est malheureusement un cours qui cloisonne les enfants. Et puis, donc, qui fait que les jeunes se reconnaissent en tant que musulmans, chrétiens, juifs. Et plus ça va et plus on se reconnaît aussi à travers notre couleur de peau, hein, noir, blanc, chinois. Bref, alors la constatation qu'on fait depuis tellement d'années, c'est que ce cours, disons, n'atteint pas les objectifs de cohésion sociale.
Pourquoi?
Dont parle hier François Legault.
Pourquoi, Madame El Mabrouk?
Parce que ça divise les enfants beaucoup. Alors, il suffit de voir les manuels scolaires. Hein. On en a parlé beaucoup. Alors, les gens sont... Écoutez, c'est... En fait, j'ai fait une petite blague au moment où, vous savez, où on brûlait tous les livres de Tintin, de Lucky Luke, parce que il y avait des images stéréotypées des autochtones. Alors j'ai ressorti les images des autochtones dans les manuels scolaires d'éthique et culture religieuse. C'est incroyablement stéréotypé. C'est incroyablement archaïque. Bon, alors là maintenant on fait attention aux stéréotypes envers les autochtones, tant mieux, mais il y a tous les stéréotypes envers les communautés. Écoutez, là, c'est les communautés culturelles aussi qui sont très stéréotypées. Mmh. Alors, la musulmane avec son voile, le juif avec sa kippa, le chrétien avec sa soutane de curé et tout ça. Alors, voilà. Et puis, donc aussi, on fait le lien entre religion et couleur de peau. Alors, ça arrive sur plusieurs photos. On montre une musulmane voilée, un juif avec sa kippa, puis un noir. Alors, vous voyez, donc, on fait l'amalgame.
Oui.
Entre alors race, que... religion.
Voilà, et ça
puis,
permet.
Donc, tout passe pour du racisme, voyez-vous. Alors,
voilà.
Donc, du coup, critiquer les religions, ça devient du racisme.
Voilà.
Et donc, ça empêche le. Alors, donc, c'est un cours, là, qui est supposé contenir un volet important de dialogue. Mais en fait, on boycotte le dialogue parce qu'il y a des. Donc, ça oriente beaucoup le dialogue de façon très idéologique. Alors, évidemment, c'était basé sur le multiculturalisme canadien, la laïcité ouverte, donc le relativisme culturel. Et puis, c'était en porte-à-faux avec la laïcité.
Oui.
Donc, c'est ça.
Alors, le relativisme culturel, parlons-en un petit peu. Le relativisme culturel, c'est quoi? C'est de dire que, bon, ben, tout se vaut, puis il y a des choses
il y a
des choses qui, peut-être, à nos yeux, paraissent condamnables, mais si oui. C'est fait au nom d'une tradition culturelle, on doit c'est l'accepter. Ça. Alors, un exemple que je donnais ce matin à Philippe Vincent Foisy, c'est mon fils qui est rentré à l'école à un moment donné avec son cours d'éthique, de son livre d'éthique et de culture religieuse, et on y racontait l'histoire de deux jeunes filles qui sont à la cafétéria. Il y a Laurence et il y a Karima et Laurence mange une collation et Karima ne mange rien. Et Laurence demande oui. à Karima pourquoi tu manges pas? Elle dit, ben moi je fais le ramadan pendant un mois, je mange pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et Laurence lui dit, ben voyons, ça a pas d'allure, c'est terrible, moi jamais mes parents me forceraient à faire ça. Et Karima lui répond, ben moi je le fais, c'est moi-même, c'est mon choix, je le fais au nom de ma foi et je suis très heureuse là-dedans. Et on demande aux enfants de juger le comportement, non pas de Karima, mais le comportement de Laurence, en
exactement.
Disant, est-ce que sa réaction est appropriée? Moi, j'étais scandalisée quand j'ai vu ça.
En effet. Ben oui, c'est... Oui, on n'est pas pour laisser les enfants pendant leur... Des jeunes enfants qui ne mangent pas pendant la journée, on peut pas être d'accord avec ça. Alors c'est incroyable qu'on le tolère au nom des religions. Non seulement on le tolère, mais on le promeut. On dit que c'est l'authenticité, c'est ça.
C'est la diversité. Alors dans cet exemple-là, dans le livre de mon fils, on disait il faut évaluer la réaction de Laurence par rapport à la diversité. Donc si Laurence est critique le fait qu'on empêche des enfants de manger, elle est critique en fait de la diversité. Donc on a moi ce que j'aimerais savoir de votre part, Madame El Mabrouk, c'est vous faites le bilan, donc, de toutes ces années où toute une génération de jeunes Québécois a été exposée. Quel a été l'impact sur ces jeunes-là d'avoir été...
Donc, ça fait 13 ans maintenant, n'est-ce pas? Là, depuis 2008, ça fait 13 ans. Écoutez, est-ce que vous voyez plus de cohésion sociale? Est-ce que vous voyez une espèce de rassemblement dans des valeurs communes? Moi, je vois pas ça. Je vois de plus en plus de divisions. Moi, je sais pas vous, mais mes garçons, là, qui reviennent de l'école, de plus en plus, ils me parlent de racisme. Écoutez, ils ont des amis de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines. Et là, de plus en plus, on nous parle de racisme. Alors, qui est-ce qui a parlé de racisme? Tel est raciste envers l'autre. Alors, voyez, on a alimenté les différences, on a mis l'accent, la lumière sur les différences plutôt que sur les ressemblances, plutôt que sur ce qui unit les gens. Donc, clairement, c'est pas une réussite. Et puis, écoutez, avec ce qu'on voit comme culture woke en ce moment, alors évidemment, je sais bien que ce mot n'a pas une définition qui est comprise par tout le monde, mais enfin, on efface le passé, vous savez, et on reconstruit, on détruit ce qui fait beaucoup la culture occidentale aussi, et puis on reconstruit avec toutes sortes de choses, et puis on reconstruit des identités, des fausses identités et des identités antagonistes. C'est ça. Alors on est dans ce climat de défaire et de refaire sur des bases ethniques, raciales, genrées. Et voilà. Et alors au nom de lutte contre les stéréotypes, en fait, on en rajoute. Bon, alors écoutez, on est dans ce climat-là. Donc l'intention du premier ministre est excellente, hein, vraiment, c'était oui. Une bonne nouvelle qu'on a appris hier. Maintenant, il va y avoir de la résistance, faut s'attendre à beaucoup de résistance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
ben moi je pense que
ça va pas passer comme une lettre à la poste. Hein?
Ben moi déjà, je peux déjà vous prédire que la presse, Radio-Canada, Le Devoir vont rentrer là-dessus à bras raccourcis. On va avoir le droit à des chroniques à temps plein, oui. De l'indignation à temps plein dans ces trois médias-là. Oui. Et c'est correct aussi, hein, la diversité d'opinion, c'est ça qui est important dans une société. Mais je pense en effet que ça va faire toutes sortes de discussions. Madame El Mabrouk, qu'est-ce qu'il devrait y avoir, selon vous, dans ce cours sur la culture et la citoyenneté québécoise pour éviter, justement, le piège des stéréotypes ou le piège du cours de CR?
Il va falloir réfléchir, il va falloir voir. Pour l'instant, tout ce qu'on a, on n'a même pas un titre. On a l'orientation qui est donnée par le premier ministre. Bah, déjà, ça nous rassure sur beaucoup de choses. Vous savez, on s'en était parlé au printemps dernier, je crois. Là, on avait un petit peu peur que ça soit un fouillis, un fourre-tout de plein de choses. Alors, vous savez, on parlait à l'époque de 8 thèmes qui sont pas mauvais, les thèmes d'ailleurs. Hein, donc, il y a des choses là-dedans qui devraient... Donc, on parlait de participation citoyenne et démocratique, et démocratie, donc ça va être là, je suppose. Là. Éducation juridique. L'éducation juridique, moi, je trouve que c'est très important.
Ben oui!
Parce que plutôt que de dire que tout ce qui vient de la Cour suprême, ben c'est ça la vérité, et c'est parce que c'est ça qu'on leur dit, hein. Leur apprendre qu'il y a différents systèmes juridiques, et puis donc le système civiliste, et puis le système basé sur le common law. Alors, ouais, donc c'est important, ça. Vous savez, là, vous racontez des anecdotes, je peux vous en raconter une. Mon fils... La première chose, son premier cours d'ECR cette année là, il est en quatrième année secondaire. Alors le premier devoir qu'il a eu dans le premier cours, la prof leur a demandé de parler, enfin de d'écrire sur une injustice qu'ils auraient vécue, que eux ou que leurs proches auraient vécue. Alors vous voyez, on commence déjà la posture victimaire. Et puis ça serait peut-être bien qu'ils parlent de justice. N'est-ce pas?
Oui.
Avant de parler d'injustice.
Ah, elle est très bonne, donc, Nadia. Elle est très, très bonne. Moi, oui, tout à fait. Mais...
Donc, éducation juridique, moi, je trouve ça important. Éco-citoyenneté, c'était bien aussi. Alors après, ça a commencé à faire beaucoup, n'est-ce pas? Éducation à la sexualité, développement de soi et des relations interpersonnelles, éthique, citoyenneté numérique, culture des sociétés. Et puis, en tout cas, dans ce qu'on entendait comme discours, il y avait beaucoup le même vocabulaire relativiste qui était ressorti, donc ça nous inquiétait un peu. Alors évidemment, cette nouvelle orientation que donne le Premier ministre, déjà ça nous dit que ça va pas être basé sur le même socle du multiculturalisme canadien et puis du relativisme.
Ça vous rassure.
Oui, c'est rassurant.
Nadia El Mabrouk, j'ai une question pour vous parce que bon, vous avez écrit ce livre donc Notre laïcité, vous êtes membre du conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Comment le cours d'ECR a quel a été son impact, disons, dans l'acceptation sociale, par exemple, d'une loi comme la loi 21 sur la laïcité de l'État? À quel point ça a été problématique, d'après vous?
Ben, comme je vous dis, le cours, on ne parle pas beaucoup de laïcité dans le cours. Il y a très peu de passages qui parlent de laïcité, puis c'est pas vraiment de la laïcité. Bon, mais il y a des intervenants. Vous savez, le problème avec ce cours-là aussi, c'est les manuels scolaires, c'est le matériel pédagogique.
Ouais.
Tout le monde venait avec son matériel. Et donc, évidemment, il y avait du matériel aussi de militants anti-laïcité. Mais c'est sûr qu'à travers le cours, l'idée que c'est que, ben, écoutez, là, dans le cours, une femme qui porte le voile intégral, eh bien, c'est une musulmane. Vous savez, il y a une photo avec une femme habillée à l'occidentale et une femme qui porte le voile intégral. Alors, on disait une musulmane et puis une habillée à l'occidentale. Donc, on faisait passer celle qui avait une robe pour la musulmane habillée à l'occidentale, comme si les musulmans, authentiques, devaient absolument avoir porté le voile ou le voile intégral.
Donc, mais Nadia, ça vous est pas
déjà...
C'est
plein de petites choses comme ça. Et donc, c'est ça. Et puis, comme je vous dis, quand on plaque la couleur de peau sur les signes religieux, eh bien, ça ressort que, en fait, interdire des signes religieux au personnel, aux fonctionnaires de l'État pendant leurs heures de travail, eh bien, c'est comme interdire à Noir de travailler. D'ailleurs, vous savez, le juge Blanchard... La Cour supérieure nous l'a sorti aussi.
Oui, tout à fait. Marc-André Blanchard dans le cas des audiences justement sur la loi 21.
C'est incroyable.
Madame El Mabrouk, juste me rafraîchir la mémoire. Est-ce que c'est à vous ou à quelqu'un de votre connaissance qui est arrivé l'anecdote suivante où son enfant est rentré de l'école en demandant à sa maman comment ça se fait que toi tu portes pas le voile?
Bien sûr, ça arrive souvent ça. Il y a pas juste une personne, oui, ça arrive souvent, bien sûr. Ben
donc,
oui, pourquoi toi tu portes, c'est ça, pourquoi tu ne portes pas le voile? Ben oui.
Alors,
et donc c'est ça, ça passe le message que, et, vous savez, c'est un cours qui fige les religions dans un certain dogmatisme. Et donc ça, c'est un, écoutez, est-ce que c'est le rôle d'un cours à l'école de dire la religion musulmane c'est ceci. Pour être un vrai musulman, il faut faire ceci. C'est incroyable. Disons que c'est l'anti-laïcité par excellence.
Alors, on peut dire bon débarras de votre côté, Madame El Mabrouk?
Oh, on était très contents, en tout cas. Oui.
Nadia El Mabrouk.
Je pense qu'on était rassurés. Bon, maintenant, il faut voir dans les détails, comme je vous dis. Ça ne va pas être facile. Il y a la formation des maîtres. Vous savez, il y a des formations universitaires complètes pour former des profs d'éthique. Et donc, ça ne va pas passer comme ça. Hein.
Non.
Le matériel pédagogique, il va falloir avoir un matériel sérieux, basé sur de l'objectivité. Moi, j'y tiens aussi. Hein. Ça serait bien là que les enfants apprennent des choses. Voilà.
C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup,
merci.
Nadia El Mabrouk, auteure du livre « Notre laïcité » aux éditions Dialogue Nord-Sud et membre du conseil d'administration du Rassemblement pour laïcité. Merci. Bonne chance avec la suite des choses. On se reparlera sûrement quand on en saura un petit peu plus sur ce nouveau cours. Et c'est d'ailleurs comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en onde. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Et bien, je vous dis non pas bon débarras, ben non, au contraire, on est très contents. On se retrouve, nous, demain.
Cube Radio.